Bonjour Sarah Dirène.
Bonjour Michel, bonjour à tous. Je suis dans le hall de la gare de Lausanne. J'attends Silke Pan. Alors Silke Pan est une ancienne acrobate qui, suite à un accident de voltige en 2007, s'est retrouvée paraplégique. Alors changement évidemment de cap, Silke Pan a été contrainte de changer de vie en pratiquant notamment du sport à haut niveau, la compétition, puisqu'elle est aujourd'hui vice-championne du monde de handbike. Alors le handbike, vous pédalez non pas avec vos jambes, mais avec vos bras. Alors elle n'a pas pu participer aux Jeux paralympiques de Rio pour des histoires administratives dignes du film de Brésil de Terry Gilliam. En revanche, elle va participer le 8 octobre prochain à Zurich au cibathlon. Alors le cibathlon, c'est une compétition internationale pour cyborgs, pour transhumains. C'est-à-dire que toutes les techniques qui n'ont pas pu être admises par le comité olympique pour ces Jeux paralympiques, eh bien, sont admises justement et sont vantées dans ce cibathlon. Il y a plusieurs catégories. Il y a par exemple une épreuve de bras bionique. Pour les tétraplégiques, il y a un challenge d'avatar piloté par la pensée et notamment une course d'exosquelette à laquelle participera Silke Pan. En notant que pour chaque catégorie, il y a deux médailles qui seront décernées, l'une pour le pilote, l'athlète, et l'autre pour la machine et l'équipe technique. Alors aujourd'hui, Silke Pan va rencontrer justement l'équipe d'ingénieurs menée par Mohamed Bourri de l'EPFL. Donc une équipe qui a mis au point un exosquelette, paraît-il, révolutionnaire. C'est donc l'occasion de s'interroger sur ces frontières floues entre l'homme réparé, l'homme augmenté, à qui profitent vraiment ces nouvelles technologies. On va en discuter tout au long de cette émission, de ce versus pensée. Mais pour l'instant, j'attends Silke Pan et peut-être Jim. Jim, c'est son chien. Je vais la repérer, ça c'est sûr. Et ben voilà.
Bonjour.
Mais alors, il y a le chien de Jim.
Bonjour.
Ça va? Alors, vous n'avez pas pris votre vélo?
Non, parce qu'en fait, on m'a amené à la gare, alors j'ai pas eu besoin d'aller avec mon vélo.
Non, parce que quand même, vous avez pas mal de bagages, un sac, un deuxième, un troisième sac.
Et puis, il y a un sac que je dois donner à mon père qui est en train d'arriver. Et puis, mon chien qui lui fait la fête.
Bonjour. Donc, en plus de ça, vous lui demandez de vous transporter des sacs.
Ben oui, bien sûr.
Vous voulez pas lui demander qu'elle fasse les commissions?
Ah oui, ça c'est pour ce soir.
D'accord, vous venez avec nous à l'EPFL ou pas?
Non, à vous partez à l'EPFL.
Oui.
Pour ton...
Oui, là on part pour faire des entraînements avec l'exosquelette. Ouais.
Non, je vous laisse aller tout seul.
Alors, au revoir. Au revoir. Nous sommes arrivés sur le campus de l'EPFL. Oui, c'est mieux hein, de ne pas conduire avec un micro à la main. Silke Pan, je le disais, le cibathlon, ce sont les Jeux Olympiques pour transhumains. Ça vous va si je dis ça?
Oui, on peut dire ça parce que c'est des athlètes qui deviennent un avec la machine. C'est la science-fiction qui est devenue réalité. Pour moi, c'est un peu le futur qui est maintenant, quoi. Pour un athlète, pour qu'il réussisse à performer dans une telle compétition, il doit vraiment s'unir à la machine, comme si la machine c'était son corps. Et on devient un peu des transhumains le temps d'une compétition.
Ouais. Oui, mais c'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes avec votre chaise roulante, vous avez l'impression de faire corps avec votre machine, là, d'être aussi dans cette position de transhumain.
Alors moi, ma chaise roulante, je trouve pas qu'elle fait partie de moi, et j'ai jamais voulu ça. Pour moi, c'est un véhicule que je maîtrise très bien. L'exosquelette, donc ouais, c'est un squelette qu'on met à l'extérieur. C'est un robot qui me permet de refaire des positions et des mouvements pour lesquels mon corps était fait au départ et que je peux plus faire avec la chaise roulante. Comme ça se moule autour de mon corps, on a plus cette sensation de faire un, je trouve, avec un exosquelette qu'avec une chaise roulante.
C'est-à-dire, Silkepan, que vous avez pu marcher?
Oui. Ah, c'est vrai que à mon premier entraînement début juillet, c'était juste tellement émouvant pour moi. C'était fort, quoi. Je croyais pas pouvoir vivre ça. Moi, je dis de voir mes jambes marcher parce que je les ai pas senties. J'ai regardé mes jambes et j'ai vu qu'elles faisaient le mouvement de la marche. Et ça faisait vraiment 9 ans que je n'avais plus vu ça. Et vraiment, je retenais mes larmes tellement c'était fort, quoi. Je m'étais déjà mise en position debout parce que j'ai ce qu'on appelle un verticalisateur. Et là, vraiment, avoir ce mouvement-là de marcher. Et aussi d'être de nouveau à hauteur de yeux des gens, de les regarder à la même hauteur que eux et pas seulement
Les fesses.
Voilà, pas seulement les fesses. C'est ça. Je pense la possibilité pour une personne paraplégique ou tétraplégique même de se remettre debout, de refaire les mouvements de la marche, ça a un impact physiologique, mais aussi psychologique.
On va parler tout à l'heure avec toute l'équipe hein, qui vous suit là depuis juillet. Mais alors c'est un entraînement intensif, Silkepan. On en parlera tout à l'heure parce que c'est pas évident hein, de dire à la machine, voilà, j'ai tout séché le sol, là je voudrais marcher. Comment guider cette machine? C'est très complexe. Hein, ça paraît simple comme ça en disant, bon, un exosquelette, oui. C'est bon, il doit marcher. Mais c'est pas si simple.
Ah non, c'est vraiment pas facile. Hein. Lors de notre premier rendez-vous avec mon équipe de l'EPFL, moi j'étais vraiment venue par curiosité parce que j'aime bien, je suis toujours curieuse de ce qui peut se faire et tout. Par contre, je leur ai dit oui, mais vous pensez quand même, moi j'ai une paraplégie complète à partir de vertèbre dorsale 10, je pense pas qu'avec ma hauteur de lésion ce soit possible. Et eux, ils m'ont dit oui.
C'est-à-dire la différence, c'est-à-dire que vous avez une paralysie, notamment au niveau abdominal?
Alors oui, la différence avec cette hauteur de lésion, on va dire, je suis pas lésée haute ni basse, c'est vraiment une lésion à hauteur moyenne. Mais les personnes qui sont lésées plus bas que moi, elles ont une plus grande stabilité du buste. Et moi, par exemple, dans ma chaise roulante, si je m'attache pas, je tombe en avant. J'arrive pas à me tenir toute seule. J'ai plus les muscles qui me tiennent. Du coup, c'est vrai que eux, ils m'ont dit non, c'est possible. Donc, on a commencé les premiers entraînements. Eux, ils m'ont dit, nous, on travaille, ça fait 1 an et demie qu'on travaille dans l'intention de présenter notre exosquelette au Cibathlon à cette compétition le 8 octobre. Et puis là, moi, j'ai dit, ah, chouette, super. Mais après, je dois dire sincèrement, après le premier entraînement, je me disais, non, mais j'aurais jamais pensé que c'était aussi difficile. J'avais beaucoup de peine à tenir l'équilibre. C'était très, très fatigant au niveau des bras, au niveau de la force. Et au fur et à mesure des entraînements, on a énormément progressé. Mais on a énormément progressé aussi parce qu'on a tous mis de notre talent, on va dire comme ça. Moi, je leur ai dit, par rapport à l'handicap que j'ai, il faudrait que l'exosquelette ait ça, ça et ça. Donc, ils ont vraiment travaillé d'arrache-pied. Ils ont travaillé, je sais qu'il y a des nuits, ils n'ont pas beaucoup dormi. Mais d'un entraînement à l'autre, ils amenaient des améliorations à cet exosquelette. Et moi, de mon côté, d'un entraînement à l'autre, je travaillais sur mes perceptions, sur mon sens de l'équilibre, sur mon sens de la coordination. J'ai retrouvé des sensations de recherche d'équilibre que j'avais quand je me mettais en équilibre sur un bras quand j'étais acrobate. Mais modifié quand même. Mais c'est un petit peu comme si j'étais en équilibre sur des échasses parce que je sens pas mes jambes. C'est une recherche intérieure, de sensations intérieures pour réussir.
Mais c'est intéressant. Mais il va pas se taire, cette corneille, ce corbeau ou je ne sais. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Silkepan, parce que finalement, on a l'impression que quand on fusionne avec une machine, c'est deux choses qui se mettent côte à côte. Mais pas du tout. La machine vous a permis d'aller dans d'autres chemins.
Oui, tout à fait, parce qu'après, avec cet exosquelette, il faut comprendre où est la machine et qu'est-ce que fait la machine.
C'est dingue, parce qu'on pense pas à tout ça quand on voit des exosquelettes. On a l'impression qu'ils sont intelligents, qu'ils marchent tout seuls, sans souci. Mais pas du tout, il faut penser à plein de choses. Vous auriez pu, Silkepan, imaginer être avec cet exosquelette. Il y a 9 ans, vous vous réveillez, quasi 9 ans, jour pour jour. Hein. C'était
oui, le 24 septembre
2007. Lorsque vous vous réveillez, qu'est-ce que vous vous dites?
Bon, au moment où je me réveille de mon coma, je sais pas que je suis paraplégique. J'apprends juste qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé. J'ai pas eu le monde qui s'est effondré. J'ai plutôt essayé de chercher, mais qu'est-ce que maintenant je vais faire de ma vie? Je me suis juste posé la question, mais moi qui de toute ma vie, j'étais artiste, j'étais acrobate, mais alors qui suis-je? Qu'est-ce que je vais faire? Je me sentais comme un nouveau-né dans un corps d'adulte. Je devais recommencer tout depuis le début. Je réfléchissais des fois, comme ça. Je me disais, oui, si je devais avoir un handicap, qu'est-ce que je ferais? Et puis, la chaise roulante, pour moi, c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. J'ai ma sœur aînée qui est née avec un handicap mental, et puis j'ai quand même toujours été un petit peu proche du monde de l'handicap par elle. Et c'est fou parce que c'est vraiment la chose, on dit, hein, des fois, c'est la chose dont vous avez le plus peur qui vous arrive, mais moi, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Bien sûr que je savais, moi, que je n'étais pas mon corps, que mon corps était mon instrument, mais je m'identifiais quand même à ce rôle que j'avais pris dans ma vie. De le perdre, c'était quelque chose de très très fort pour moi. Je pense plus fort que pour quelqu'un qui aurait été secrétaire et qui de toute façon était déjà assis 8 heures par jour.
Et comment vous avez dompté votre corps, votre nouveau corps ?
Bon, au départ, j'ai quand même eu beaucoup de peine à accepter ce nouveau corps. Déjà, visuellement, de voir mes jambes sans musculature, toutes relâchées comme ça, ça faisait pas partie de moi. J'arrivais pas à me dire c'est mon corps. Et après aussi au niveau des sensations, c'est vraiment particulier quand on est paraplégique. Alors on ne sent plus, mais j'ai une zone de transition. Chez moi, cette zone de transition, c'est le bas-ventre. Donc je ne sens plus mes jambes, mais j'ai une sensibilité accrue, exacerbée au niveau du bas-ventre, de l'aine. Et puis un petit peu sur la cuisse droite, parce que j'ai une partie des nerfs qui sont encore raccordés à mon cerveau, une partie des nerfs qui sont plus raccordés au cerveau, et ça crée des choses comme ça. Alors par exemple, quand j'ai une blessure au pied, eh ben ça il faut apprendre. Le corps fonctionne différemment. J'ai une blessure au pied, ça va créer des spasmes, c'est-à-dire des contractions involontaires de ma jambe. Et puis à ce moment-là, j'ai très mal au ventre. Alors il faut apprendre. Je ne sens plus quand ma vessie est pleine. Mais par contre, j'ai très mal à la tête et des nausées. Ça veut dire que ma vessie est pleine. Voilà, on a besoin de moyens mécaniques pour que ça fonctionne. Pour nettoyer mes intestins, j'ai besoin de 3 heures par jour avec des moyens mécaniques. Et c'est toutes des choses qui sont... Il faut apprendre. Après, il faut apprendre qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses pour les jambes. Je me suis très souvent coupée, je me suis brûlée. Comme avec le traumatisme crânien, j'ai aussi perdu l'odorat. Alors, au moment de me brûler, je ne sentais rien. Il faut tout apprendre. Apprendre à interpréter.
Il faut apprendre tout ça, et vous l'avez fait avec pas mal de courage, hein, Syl Képan. Et vous vous êtes dit après, bah tiens, maintenant que j'ai maîtrisé mon corps, que j'ai appris à entendre ce qu'il dit, je vais faire de la compète, je vais devenir vice-championne du monde de handbike, c'est si simple.
Alors, je m'étais même pas dit ça au début, mais disons que moi, le handbike, je l'ai découvert au moment de sortir de l'hôpital en 2008. Donc, j'ai acheté mon premier handbike en 2008. J'ai commencé à m'entraîner avec, simplement qu'à ce moment-là, je pouvais pas encore me consacrer à la compétition et faire des compétitions parce qu'on avait trop d'autres problèmes. Il fallait reconstruire une profession, il fallait démontrer à l'assurance accident que j'étais vraiment invalide alors qu'elle me disait que j'étais saine à 100%. Il fallait repasser devant des experts. Il y avait beaucoup de choses à gérer avant. C'est que en 2012 que j'ai commencé les compétitions. Et là, en 2013, je me suis dit, on va voir au niveau international comment ça se passe. Est-ce que c'est juste en Suisse que ça marche bien? Et là aussi, de nouveau, à ma grande surprise, ça s'est bien passé. En 2013, j'ai fait le meilleur temps mondial au marathon en 1h08min1s. Donc, sur 42 km 195. Puis j'ai continué jusqu'à 2015, 4 médailles en Coupe du Monde, une médaille d'or en Coupe du Monde à Yverdon-les-Bains, où j'étais aussi marraine du championnat, et puis le titre de vice-championne du monde. Donc c'était très émouvant. Le titre de vice-championne du monde, je l'ai fait à notre ville, dans la ville où j'ai été hospitalisée pendant 6 mois et demi après l'accident. À notre ville, j'étais presque morte, j'étais dans le coma, on savait pas comment ma vie allait continuer. À l'endroit où j'étais presque morte, j'ai ressuscité un petit peu d'une certaine manière parce que j'ai pris la revanche sur mon handicap avec ce titre-là.
On ne parlera pas des raisons administratives, mais vraiment kafkaïennes, qui font que vous n'avez pas pu aller aux Jeux paralympiques de Rio. Mais vous disiez, Silke Pan, j'ai dû faire avant face aux assurances. Ça n'a pas été simple pour les assurances. L'assurance ne reconnaissait pas votre handicap. Vous avez vécu carrément dans un baraquement de chantier. C'est vrai ?
Oui, c'est ça. Oui. Pendant presque 4 ans, j'ai vécu dans une baraque de chantier qui était mal plate, où la chaise, elle partait tout le temps en roulant de tous les côtés. C'était très étroit. Donc, je me tapais les doigts régulièrement. En hiver, il faisait très froid. On avait les vitres gelées. En été, il faisait très chaud. Et c'est vrai que c'était une longue bataille parce que j'ai dû, pendant ces 4 ans et demi, j'ai dû me replonger tout dans ma vie d'avant, c'est-à-dire recontacter des gens avec lesquels j'avais travaillé, prouver que j'avais travaillé aussi en Suisse et pas seulement à l'étranger. Pour moi, c'était douloureux parce que j'avais envie de regarder vers l'avant, vers le futur, et puis le fait de devoir passer devant des experts, médecins, refaire examiner depuis le début alors que j'avais déjà passé plus de 6 mois et demi dans les hôpitaux, de prouver, c'était tellement évident. Enfin, disons, après l'accident, j'avais quand même le crâne qui était fendu, fissuré, je sais pas comment on dit, j'avais de l'eau dans les poumons, j'avais les côtes qui étaient abîmées, j'avais 2 vertèbres luxées, enfin voilà, il y avait plein de dégâts. Pour moi, c'était tellement évident. Enfin, c'est dur quand psychologiquement, dans un moment où on doit se reconstruire, qu'on remette tout ça en question, qu'on vous dit mais non, tu joues la comédie, mais non, c'est pas vrai, mais non, enfin voilà. Et j'avais pas envie, et je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre, donc j'avais pas envie de raconter mes bobos, de dire tout ce qui va pas. J'aime pas, c'est pas mon caractère. J'ai plutôt envie de parler de ce qui va bien, et puis de me focaliser sur ce qui va pour aller de l'avant. Moi, j'ai eu un avocat aussi qui m'a défendu, et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir simplement mes droits. Je veux pas dire j'ai pas gagné contre l'assurance, j'ai juste eu mes droits pour avoir de quoi vivre, de quoi survivre. Par exemple, bon, la chaise roulante, c'est l'assurance accident qui me l'a payée. J'ai un monte-escalier pour monter dans mes bureaux à Aigle. C'est la seule aide que j'ai reçue de l'AI parce que j'ai pas droit à une rente AI. Mais l'AI m'a payé 22 000 francs pour ce monte-escalier parce que j'en avais besoin pour des raisons professionnelles. Si cela avait été pour moi, pour habiter, pour la maison, ils auraient dit non, vous avez qu'à habiter autre part et puis choisir un appartement où il y a un ascenseur.
Et il y a Jim qui s'impatiente et qui veut aller voir l'exosquelette. C'est ça, Jim ? On irait voir l'exosquelette ?
Alors, on va aller voir l'exosquelette et puis continuer cette belle journée.
Ah, c'est là ! On prend l'ascenseur ? 3e. J'y vais. Allez-y. Bonjour. Bonjour, ça c'est toute l'équipe ?
Oui. Alors vous avez Romain Beau, juste ici, qui travaille sur la partie électronique et implémentation des trajectoires de marche. Vous avez Julia Pache, il est designer industriel. Et lui, il travaille sur tout ce qui est conception mécanique. Et il y a Marek qui nous aide dans le choix des matériaux pour l'exosquelette et aussi pour la communication. Tristan Vouga, qui n'est pas encore là, est ingénieur mécanique. Il a fait le design complet de l'exosquelette. Et puis on a notre superviseur, Mohamed Bourri, qui nous apporte ses conseils. Et voilà Tristan Vouga. Et moi-même qui est ingénieur en ingénierie biomédicale.
Si j'ai bien compris, Gemina Fazola, Vous avez le regard vraiment médical.
Exactement. Donc, en fait, moi, j'ai une petite expérience en milieu clinique. Je travaillais dans un laboratoire qui était intégré au sein d'un hôpital. Donc, ça me permettait de voir comment les thérapeutes travaillaient avec les patients. Et je sais un peu plus comment manipuler les patients, qu'est-ce qu'il faut pour la réhabilitation, où les thérapeutes vont interagir avec le patient. Donc, quand on développe un exosquelette, c'est important de penser où les thérapeutes peuvent avoir une prise sur l'exosquelette pour aider le patient, comment faire le transfert et comment, en fait, interfacer ce robot avec le patient. Donc, il y a vraiment un échange entre le pilote et l'exosquelette.
Ah Oui, mais ça, c'est diablement compliqué.
Comme Silke n'a pas du tout de sensation, on doit lui fournir d'autres tours. Donc ça peut être visuel, elle va regarder ses pieds pour savoir comment ils sont placés par rapport au sol. Ça peut être auditif. Je sais que Silke écoute beaucoup le bruit des moteurs pour savoir où elle en est dans le cycle de marche. Et au tout début de son entraînement, Romain avait aussi ajouté des sons qui lui indiquaient le début du pas, donc quand le pied allait se soulever du sol, et un autre son qui lui indiquait quand le cycle de marche était fini, donc quand le pied atterrissait sur le sol. Donc elle avait un peu des retours auditifs qui lui permettaient de savoir où elle en était dans la marche, en fait.
Alors vous, Mohamed Pourri, vous avez dirigé toute cette équipe. Le Cibathlon est pour vous un tremplin piloté par la Suisse, par le département de recherche, enfin le Fonds national notamment de robotique. C'est un tremplin.
Bon, le but du Cibathlon, c'est aussi de promouvoir cette technologie auprès du grand public. Nous, on développe des exosquelettes depuis quelques années. Il reste cet aspect que cette technologie doit être de plus en plus acceptée par le grand public.
Mais vous le dites, hein, Mohamed Bourri, il y a à peu près 8 ans, enfin il y a 10 ans que vous travaillez sur des exosquelettes. C'est vrai que moi, quand je me balade dans la rue, je ne vois pas d'exosquelettes. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher ? Parce que quand même, les premiers exosquelettes, c'est 80 000 francs, à peu près. Ou c'est parce que c'est impossible à piloter?
Alors, un défi qu'on s'est fixé avec l'équipe, en fait, qu'on a construite autour de Tristan, a été de développer un exosquelette léger, modulaire, qui est de plus en plus accessible pour, justement, le monde de l'handicap.
Et c'est pas pour le monde militaire?
Non, ce n'est pas pour le monde militaire parce que nous ne travaillons pas en fait avec c'est des objectifs militaires.
Il a un petit nom, cet exosquelette ?
Oui, il s'appelle Twice. Il a été nommé il y a 2 semaines exactement.
Twice, ça veut dire en fait l'interaction entre l'humain et le robot. Faut imaginer que c'est vraiment une marche à deux. On est deux à marcher ensemble, l'humain et l'exosquelette.
Avoir confiance en sa machine. Tristan Vouga, c'est en fait ça le plus grand défi.
C'est exactement ça. Le plus grand défi des exosquelettes, en fait, c'est l'interaction avec l'humain. Que cette interaction soit mécanique ou qu'elle soit comportementale, comprendre l'un l'autre, communiquer ensemble de manière complètement implicite, c'est tout du langage non-verbal, c'est vraiment un des plus grands défis.
Le choix du matériel, et je sais que vous n'avez pas le droit de dire de quel matériau il s'agit, c'est juste ? Même sous la torture ?
Même sous la torture. Mais en fait, c'est parce que notre formule magique à nous, c'est notre manière de fabriquer l'exosquelette. C'est notre technique de fabrication. C'est ce qui nous a permis de faire un exosquelette qui soit en même temps léger, 2 fois plus léger que certains autres exosquelettes qui font les mêmes fonctions.
12 kilos.
14
kilos.
14 kilos.
Et 12 000 francs.
C'est aussi ce qui nous a permis en fait de faire un exosquelette qui est adaptable, qui est personnalisable, qu'on peut modifier et adapté sur mesure à différentes morphologies et potentiellement à différentes pathologies aussi, à l'avenir. Et c'est quelque chose que les autres ne peuvent pas faire avec leur technique de fabrication, et que nous, on peut faire.
Ah, il est là. Il est enfin là. Votre bébé. Donc il est noir, on a l'impression d'un tout petit robot, enfin d'une structure de robot, hein, quand même un dossier.
Oui, le dossier fait en même temps fonction aussi de boîtier électronique. C'est là-dedans qu'on a les batteries qui nous permettent d'emmagasiner de la puissance électrique et l'électronique qui décide en fait que fait l'exosquelette, à quel moment. Cette électronique, elle donne le courant au moteur qui met en mouvement les articulations et elle analyse, elle essaye de comprendre l'intention de l'utilisateur pour savoir quoi faire à quel moment. C'est à ça que sert l'électronique embarquée dans Twice. En fait, la fonction d'un exosquelette, c'est de redonner la même fonction que les jambes d'une personne. À la différence d'une prothèse qui remplace des membres inexistants, un exosquelette, il est là pour remplacer uniquement la fonction. Ça veut dire que pour remplacer cette fonction, il est fait comme une jambe humaine, il est fait d'une structure qu'on pourrait assimiler aux os d'une personne, et il est fait d'actionneurs, des moteurs électriques qui permettent le déplacement, le mouvement. On pourrait les assimiler aux muscles. Et ce mélange de structure et d'actionneur permet de récupérer cette fonction de marche, cette fonction de déplacement, de mouvement qu'une personne aurait perdue.
Qu'est-ce qui a été difficile, Agnès Bleuler, parce que vous avez suivi le projet depuis le départ. Vous travaillez en micro-technique au laboratoire de systèmes robotiques. Qu'est-ce qui a été le plus le hard ou le soft?
C'est la grande variété des sujets qu'il faut maîtriser. Donc c'est pas seulement une construction mécanique, c'est les moteurs, c'est l'électronique, c'est le contrôle, et puis aussi toute la physiologie, comment le cerveau s'adapte à ça, le fait que le patient ne sent plus rien dans les pieds et qu'il contrôle. Donc là, on apprend petit à petit. Le fait, par exemple, qu'elle a besoin du bruit des moteurs. On dit toujours une prothèse doit être silencieuse, mais dans certains cas, c'est le contraire. Il faut qu'elle entende, qu'elle sache ce qui se passe. On peut pas s'imaginer comment c'est si on sent plus rien en bas. La première chose qu'elle a demandé pour le mettre, c'est un miroir pour voir ce qui se passe, parce qu'elle ne sent pas. On ne veut pas être porté comme ça, on veut le sentir. C'est ce qui s'appelle embodiment. Le cerveau doit s'approprier quelque chose et ça ne va que par des retours sensoriels. De mettre tout ça ensemble, toutes ces compétences, donc de la mécatronique qui est déjà elle-même très large, plus les compétences humaines en sciences cognitives, neurosciences cognitives. On travaille avec mon collègue Olaf Blanquet pour ces aspects de embodiment.
C'est un exosquelette, Agnès Bleuler, qui est spécialement conçu pour des paraplégiques. Mais par exemple, pour quelqu'un qui est myopathe, il ne pourra pas utiliser cet exosquelette-là.
Non, c'est très différent. Ça, il faut bien l'adapter à la pathologie. Donc les paraplégiques, ils n'ont pas de sentiments, donc ils doivent s'équilibrer avec les béquilles. Mais ils ont beaucoup de force dans les bras, donc ils peuvent bien utiliser les béquilles. C'est pas le cas de tout le monde. Des personnes qui sont affaiblies généralement, comme les myopathes, ils peuvent pas utiliser les béquilles, et puis eux, ils veulent s'équilibrer avec les jambes, donc il faut plus de degrés de liberté au niveau des jambes, ce qui rend l'exosquelette plus compliqué, plus lourd, avec plus de moteur. Par contre, ils ont le sentiment, donc on n'a pas tous les problèmes qu'on a avec les paraplégiques qui ne sentent pas où sont leurs pieds. Alors c'est finalement très différent, même si les deux sont des exosquelettes.
Droite,
ouais, droite, c'est un petit pas.
Alors,
je vais baisser
le dos.
Oui,
voilà, à droite.
Donc, on peut passer au grand pas gentiment.
Hein. Ouais. Quand tu veux, Sylka, tu te redresses et on passe au grand pas. Quand tu le sens, quand tu sens.
Ça va, Sylka?
Oui, ça va bien. Ouais.
Les escaliers, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Les escaliers, ça fait partie des obstacles du cibathlon. Ouais, attention, hein.
Ah bah oui, c'est-à-dire que je ne peux pas toucher, parce que évidemment si je touche ce bouton, vous
allez... Mes jambes, elles vont bouger. Si vous touchez ce bouton, bah, mes jambes, elles vont bouger, et puis c'est risqué, parce que ça peut me faire tomber.
Alors c'est vous qui actionnez le petit bip.
Le petit bouton, ici, ouais. Je me suis mis, là j'ai appuyé une première fois, pour incliner mon dos, pour que mon dos soit un petit peu en avant, et ce qui me permet d'avoir plus de stabilité. Et une fois que mon dos est en avant, je fais mon premier pas. Donc là, je vais basculer sur la droite et je clique pour que mon pied gauche bouge. Et ensuite, il faut que j'appuie sur la béquille gauche pour que je puisse basculer le poids du corps de l'autre côté et à l'autre pas qui arrive. Et je dois faire ça tout en faisant attention de comment je positionne mes épaules.
C'est physique, hein?
Oui, c'est physique et ça demande encore pas mal de concentration. Vous entendez le bruit du moteur, ben, je me réfère à ça. Tac, tac. Maintenant, je peux seulement appuyer. Tac, tac. Maintenant, c'est bon. Faut pas que j'appuie trop tôt, sinon c'est risqué.
C'est lourd?
Non, c'est porté par la structure, en fait. Voilà.
Vous avez le droit de rester un petit moment tranquille. Merci beaucoup. Elle n'arrête pas de bosser. On sait, hein, Mohamed Bourri, que c'est très très difficile, hein, de commenter d'une part la marche et la trajectoire. C'est pas tout à fait la même chose. Monter les escaliers, c'est très difficile. Avec ce cibathlon, cette compétition internationale de cyborg qui aura lieu le 8 octobre prochain à Zurich, avec aussi les Jeux paralympiques, j'ai l'impression qu'on rend visible l'handicap sous une forme de performance, de super-héros, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Et vous y participez, oui. Évidemment, avec votre exosquelette.
Oui, oui. Effectivement, la question que vous posez, c'est que, est-il louable, on va dire ça comme ça, de montrer l'handicap avec cet aspect de performance. C'est une question qui nous interpelle, nous, en tant que personnes qui développons de la technologie. Autant le cibathlon est un événement qui va s'intéresser à la compétition, parce que là, ça reste une compétition. Du coup, dès qu'on parle de compétition, on va parler de performance. Cette performance, elle est non seulement associée au dispositif, mais elle est associée également à la personne pilote, en fait. Mais autant, nous pensons que pour cet aspect technologique, il reste toujours un travail à faire au niveau des personnes, donc nous, le grand public, mais également au niveau des laboratoires, pour toujours promouvoir la recherche dans ce domaine, et également au niveau des entreprises, pour qu'elles puissent être motivées à mettre sur le marché des dispositifs d'assistance pour ce monde d'handicapés.
Il faudra ensuite, une fois que les entreprises auront accepté ce prototype, Mohamed Bouri, il faudra que les assurances remboursent. Oui,
c'est un autre travail à faire.
Oui,
effectivement.
Ça fait 5-6 ans que vous travaillez ici à l'EPFL et que vous essayez de développer des exosquelettes. Sommes-nous prêts, nous, à voir des exosquelettes se balader dans la rue?
Effectivement, en fait, c'est toujours la question qui se pose. On parle d'acceptabilité, parce que c'est ce qu'on voudrait, que les gens ne perçoivent pas, en fait, l'exosquelette comme un élément étrange à l'environnement. Autant que c'est plus étrange, en fait, de voir une personne avec une chaise roulante ou avec une prothèse de marche aussi. Et pour les handicapés, on va dire, qui ont une incapacité de marche, c'est plutôt une nécessité. Du coup, ce n'est plus un confort. Lui permettre de disposer de son corps en posture verticale pour marcher dans la rue, pour marcher dans un supermarché et finalement avoir cette parité avec le monde vertical, parce qu'on a toujours cet aspect parité avec le monde vertical.
C'est nous qui devons changer de regard.
Je pense que oui, c'est nous qui devons changer de regard et c'est nous, en tant que développeurs, qui devons améliorer les développements dans ce sens pour rendre les exosquelettes plus légers, les rendre plus ergonomique. Et je me rappelle toujours d'une des pilotes, en fait, avec lesquels on a eu contact. Il disait, moi, je voudrais bien que mon exosquelette soit personnalisable jusqu'à au choix des couleurs, des textures qu'on aurait dessus.
Eh bien voilà, comme le disaient à la fois Sarah Dirène et Mohamed Bouri, c'est à nous de changer de regard à la fois sur le handicap et sur tous les moyens mis à disposition aujourd'hui et demain des personnes pour alléger les contraintes de leur handicap. Le fauteuil n'interroge plus personne, il est entré dans notre regard. Espérons que ces futurs exosquelettes y entreront aussi. Merci à toute l'équipe et à Sarah Dirène, un reportage réalisé par Patrick.